Bien, nous poursuivons aujourd'hui avec le livre de la Genèse pour ce cours d'Ancien Testament niveau 1. Je vous demande un instant. Oui. Voilà, donc nous sommes bien au niveau 1. Nous avions vu d'abord, la dernière fois, en survolant rapidement le plan des 11 premiers chapitres de la Genèse. Et nous avions commencé avec le récit de la création. Nous allons continuer avec le chapitre 2 et le chapitre 3. Bon, ça sera un peu plus lent que je ne l'avais prévu en concevant ces cours, mais finalement je ne le regrette pas parce que c'est tellement important tout ce qui se dit dans le livre de la Genèse qu'il faut vraiment prendre son temps, et même en prenant son temps on sera loin d'épuiser toutes les significations qui nous sont données dans ce premier livre du Pentateuque. Donc au chapitre 2, nous avions vu, qui est répété, quoique bien sûr sous un angle différent, le récit de la création et celle de l'homme. L'homme est créé comme un être vivant par l'union de ce que le texte appelle l'Adama, la poussière de la terre. Le Seigneur modela l'homme avec de la poussière prise du sol. L'union donc de cet Adama avec le Roua, le souffle, il insuffla dans ses narines l'haleine de vie. On parle également à ce propos-là de Neshama. Et l'homme devint un être vivant. Donc avec une âme, Nefesh. L'haleine de vie est bien sûr commune, nous le savons tous, à l'homme et aux animaux, mais ce qui distingue l'homme, c'est qu'il est, comme nous le dit la première épître de saint Paul aux Thessaloniciens, un composé d'esprit, âme et corps. Je cite, « Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre être tout entier » l'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le verset 23 de 1 Thessaloniciens 5. L'esprit, donc, c'est ce qui donne à l'homme l'accès à la connaissance de Dieu. Pour autant que nous pouvons le connaître, nous ne pouvons le connaître que dans ce qu'il révèle à nous de sa personne. L'âme vivante signifie la vie proprement dite. Hein. Et puis on sait que cette âme, c'est le siège de la conscience de soi, des sentiments, des affections, de la volonté, des énergies que Dieu a donné à l'homme. C'est tout cela inséparablement. Et le corps, c'est la demeure commune de l'esprit et de l'âme, c'est le siège également des cinq sens qui sont dans la constitution physique de l'homme et qui lui servent à appréhender le monde extérieur à lui. Alors toujours au chapitre 2, le Seigneur Dieu demande à l'homme de nommer tout bétail, tout oiseau du ciel et toute bête des champs. On a là un signe de la dignité particulière de l'homme, parce que Dieu crée tous ces animaux et il les amène à Adam pour que Adam les nomme. Et rappelons-nous également que l'homme a été créé après les animaux, le sixième jour. Alors je rappelle que nommer, c'est connaître. Et le texte ajoute une chose intéressante parce qu'elle nous concerne pour le propos d'aujourd'hui. Mais pour lui-même, l'homme ne trouva pas l'aide qui lui soit accordée. Bon, ça signifie très simplement que l'homme ne trouve pas de vis-à-vis, son vis-à-vis dans le règne animal, et son vis-à-vis va venir d'ailleurs, va venir du Seigneur Dieu lui-même, qui va plonger l'homme, je suis le texte là, hein, qui va plonger l'homme dans une torpeur, cet homme va s'endormir, et va être formée la femme à partir du côté de l'homme. Et quand il se réveille, il a une exclamation. Quand il voit la femme, il souligne, exclamation, bon, vous la lirez, hein. Cette exclamation souligne bien la proximité et la complémentarité des dieux, des deux, par le vocabulaire du texte lui-même. Complémentarité des deux par le vocabulaire du texte lui-même. En hébreu, c'est Ish et Isha. Hein ? Aussi, est-il ajouté, l'homme laissera-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviennent une seule chair. Ils forment un tout, donc, et sont, c'est dit dans l'Épître aux Éphésiens, sont le type de Jésus-Christ et de son Église. L'union de l'homme et de la femme, c'est le type de Jésus, de l'union de Jésus-Christ et de son Église. Saint Paul le dit en Éphésiens 5, toujours dans un développement qu'on trouve au verset 22 à 32, « Ce mystère est de grande portée, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. » Et il fait référence justement à cette complémentarité de l'homme et de la femme pour énoncer cette affirmation, ce mystère est de grande portée, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Alors il est dit, toujours dans notre chapitre 2, hein, que Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Bon, ce mot-là, il nous est familier. Le jardin d'Éden, c'est le paradis. On en a souvent entendu parler, bien sûr. Et il a au moins, littéralement parlant, deux significations dans ce même chapitre de la Genèse. Il est d'abord décrit comme un jardin, mais c'est aussi, quelque part, un territoire, une région. Région entre deux grands fleuves. Et ça, on le trouve dans les versets 10 à 14. Deux grands fleuves de Mésopotamie, bien sûr. Le Tigre et l'Euphrate. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que la question de la localisation du jardin ou de la région qu'on appelle le paradis ne concerne pas directement ici mon propos, mais faut plutôt regarder quand même de près la signification du nom même. Éden, ça évoque un jardin. Le mot jardin, il a une origine persane, Firdaus, c'est jardin en persan, et c'est de là que vient l'origine de ce mot. Et en hébreu, il renvoie à deux significations, délices et jouissances. D'ailleurs, dans l'anaphore eucharistique de Saint Basile le Grand, on parle du jardin des délices. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'homme est placé par Dieu dans le jardin d'Éden ? Dans ce jardin de délices et de jouissances. Ça nous renvoie d'abord à l'état premier de l'homme, à sa première nature, celle dans laquelle il a été créé, homme-femme, Ish et Isha, à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme, donc, parmi tous les êtres créés, c'est celui qui est créé à l'image de Dieu. C'est dans sa constitution originelle. On parle également, dans un autre verset de la Genèse, de la ressemblance. Mais là, la ressemblance est plutôt de l'ordre de la potentialité, comme le dit saint Basile. Je cite, on peut trouver ça donc dans un écrit de saint Basile qui s'appelle « La structure de l'homme ». C'est en pratiquant les vertus, en faisant le bien, en vivant selon l'Évangile, que nous obtenons la ressemblance réelle à Dieu. Et plus loin, le même saint Basile dira « La structure de ton corps est pour toi un enseignement du but pour lequel tu as été créé. Tu as été créé debout pour que ta vie ne se traîne pas sur la terre, mais regarde vers le ciel et vers Dieu qui s'y trouve. Aussi, ne t'empresse pas vers les jouissances bestiales, mais vis conformément à la raison qui t'a été donnée d'une vie céleste. » C'est dans la deuxième homélie de la structure de l'homme. Donc, en sa nature première, créée par Dieu, à l'image, comme l'affirme le texte de la Genèse, l'homme est sans péché, il est sans passion, il est au contraire habité par les énergies que Dieu a placées en lui et qui lui permettent de se tourner vers son Créateur. Je cite là saint Jean Damascène, « Dieu a créé l'homme sans malice, sans peine, sans souci, paré de toute vertu, riche de tout bien. » C'est dit dans l'ouvrage du Damascène de la foi orthodoxe. Saint Irénée, d'ailleurs, bien avant saint Jean Damascène, dira la même chose dans le Contre les hérésies, au livre 4. Donc ça veut dire qu'en vertu de cette nature première selon laquelle il a été créé et voulu par Dieu, eh bien, son être est capable de perfectionnement. Et ce perfectionnement, finalement, il est indéfini, selon cette nature première. Saint Grégoire de Nyse dit « Notre nature était primitivement créée par Dieu comme un vase capable de recevoir la perfection. » Et dans un autre texte, il dira « Dans ce monde comme dans l'autre, nous sommes appelés à croître à la dimension du Christ. » Et ce processus est infini. Irénée, que je viens de mentionner, dira à ce propos, « Quant à l'homme, » là c'est une citation que vous trouverez dans le livre 4 du Contre les hérésies, au chapitre 38, « Quant à l'homme, il fallait qu'il fût créé. » Puis que, créé, il grandit. Qu'ayant grandi, il se fortifia. Que fortifié, il se multiplia. Que multiplié, il se perfectionna. Que perfectionné, il fut glorifié. Et que glorifié, il devint digne de voir son Seigneur et Dieu. Alors il faut tout de suite noter que celui qui est créé sans péché, il ne l'est pas par une quelconque nécessité de nature. Hein ? Mais au contraire, par l'exercice de la volonté libre. Très important ça. Dieu a créé l'homme sans péché selon sa nature et libre selon sa volonté. Là, c'est le Damasène qui parle à nouveau. Sans péché, dis-je, non pas au sens qu'il n'eût pu admettre le péché, car seule la divinité exclut le péché, mais en ce sens qu'il avait bien la possibilité du péché, mais dans sa libre volonté, non pas dans sa nature. Ce qui veut dire qu'il pouvait aider par la grâce de Dieu, rester dans le bien et y progresser. De même qu'il pouvait aussi, selon sa liberté et avec la tolérance divine, se détourner du bien et se tourner vers le mal. C'est toujours dans le même écrit du Damasène, de la foi orthodoxe, au livre 2. Et cette affirmation de Jean de Damas, justement, elle est bien confirmée par l'interdit du verset 17 de Genèse 2. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. » On va revenir là-dessus. Donc, placé dans le jardin des délices, le premier couple avait reçu la domination sur les autres créatures, comme nous l'avions vu avec Genèse 1, 28, et comme ça transparaît également dans l'acte de nommer les animaux, tel qu'il figure en Genèse 2, 19, 20. Celui qui est créé par Dieu, donc, reçoit l'autorité sur la création, autorité qu'il doit exercer comme un intendant fidèle et avisé, et non comme un prédateur impitoyable, ce qu'il est malheureusement, dans le passé et encore pire aujourd'hui. En ce sens, donc, l'établissement de l'homme dans ce jardin de délices, le fait qu'il ait une dignité particulière, qu'il nomme les animaux, qu'il est établi comme intendant du jardin de la création, on peut dire aussi qu'il a une mission sacerdotale par rapport à l'ensemble de la création. Parce que par sa prière, il porte tout vers Dieu, il rend à Dieu toute l'action de grâce, vu les dons magnifiques qu'il a reçus, dont il a été orné, et il manifeste la gloire de Dieu à travers toute l'œuvre de la création. Et en plus, dans cet état-là, chaque règne du vivant inférieur à l'homme trouve sa place dans l'ordre de la création et trouve sa finalité, trouver sa place et trouver sa finalité. Vous voyez ? Donc ce jardin des délices, ce jardin d'Éden, était... les pères se sont intéressés à la question, était à la fois... était un lieu de vie, bien sûr, avant d'en être expulsé à cause du péché, de la transgression, un lieu de vie, mais qui était à la fois matériel et spirituel. Bon, d'abord, Genèse 2,15 nous dit que l'homme devait cultiver le sol, garder le jardin. Cultiver le sol, garder le jardin, ça relève bien donc dimension matérielle, mais il doit également... Et là, c'est l'aspect spirituel, il doit garder présent en lui l'interdit sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, il a reçu la liberté de choix, parce qu'il a été créé comme une liberté, en face de la liberté avec un grand L, qui est celle de Dieu. Alors, je vais citer, si je retrouve mon texte, une nouvelle fois Saint Jean Damascène, qui dit ceci. Certains ont imaginé un paradis sensible et d'autres un paradis intelligible. Mais à moi, il me semble que l'homme a été créé à la fois matériel et spirituel, de même, ce très saint temple était à la fois matériel et spirituel et avait un double aspect. Car l'homme habitait par son corps dans ce lieu divin et magnifique, et par son âme dans le lieu incomparablement plus élevé et plus beau, où il avait Dieu pour habitation et pour vêtement la lumière. Il était revêtu de sa grâce, il savourait le très doux fruit de sa contemplation et s'en nourrissait tel un ange. Et plus loin, il ajoute, je pense donc que le paradis était double, et que c'est donc un enseignement véritable que nous ont transmis les pères Théophores, dont certains pensaient que le paradis était matériel, et d'autres qu'il était spirituel. Toujours dans le livre 2 de la foi orthodoxe. Et il ajoute un peu plus loin, vivant au paradis, Adam a reçu de Dieu la connaissance immédiate. Il s'est accompli par la contemplation des objets spirituels. Il a véritablement vécu une sainte vie. Saint Athanase, d'ailleurs, dit exactement la même chose dans son livre « Contre les païens ». Et lui, il ajoute quelque chose qui me semble tout à fait important à rappeler. Je parle de Saint Athanase. L'homme a été créé à l'image de Dieu pour que le semblable pût voir le semblable, car la vie de l'âme consiste en la contemplation de Dieu. Donc, tous deux, il s'agit d'Adam et Ève, étaient nus, l'homme et la femme, sans se faire mutuellement honte, nous dit Genèse 2, 23. Or, bon, vous savez très bien que la nudité dont il est question ici est le signe de l'innocence du cœur. Ça va jouer sur deux registres, la nudité, dans ces chapitres 2 et 3 de la Genèse. En premier lieu, comme signe de l'innocence du cœur, et en second lieu, après la transgression, comme signe de quelque chose de mauvais. Je vais y revenir. Alors, le chapitre 3, justement après ce verset de 2:23, parlant de la nudité qui ne procure aucune honte, donc qui est le signe de l'innocence du cœur. Le chapitre 3 nous introduit dans le récit de l'expulsion d'Adam du paradis. On sait ce qu'il advint. Adam fait un mauvais usage de sa liberté. Il écoute la fourberie du serpent. Les termes mêmes sont repris d'ailleurs dans la grande anaphore eucharistique de Saint Basile le Grand. Donc, Genèse 3 nous rapporte le mauvais choix de l'homme. Et ce mauvais choix de l'homme, bien sûr, il va avoir des conséquences très graves et très dramatiques parce que il entraîne la création tout entière dans la déchéance. Pourquoi ? Bah parce que par la transgression, la mort est entrée dans le monde, et par le péché, péché et mort, c'est deux réalités là qui sont indissociables. C'est rappelé par saint Paul hein, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, le verset 12, je crois. Oui, c'est ça, oui, verset 12. Donc, il faut dire que l'homme, comme être créé, était par nature limité, bien sûr. Mais s'il était resté dans le bien divin, il serait resté immortel, grâce à la bénédiction divine. Et saint Théophile, dans sa lettre à Autolycos, parle de la même chose et il nous dit ceci. Voilà, j'y suis. Dieu n'a créé l'homme ni mortel ni immortel, mais capable de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que s'il cultivait ce qui conduit à l'immortalité, en accomplissant le commandement de Dieu, il obtenait de Dieu l'immortalité comme récompense et devenait agréable à Dieu. Mais s'il se tournait vers les œuvres de mort, en ne se soumettant pas à Dieu, il devenait responsable de sa propre mort. Donc, en reprenant l'avertissement de Genèse 2, 16, 17, de tout arbre qui est dans le paradis, tu mangeras pour ta nourriture, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras point, et le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et là, on voit bien ici que l'homme a été créé avec une volonté libre. Et l'interdit, le commandement qui interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien il engage l'homme à se déterminer librement, pour le bien, donc à respecter le commandement, et non pas à le transgresser. Donc l'homme a été véritablement créé avec une volonté libre. Ce commandement, il est vu par les pères, du moins par certains d'entre eux que je cite dans ce cours, je ne peux pas tous les citer, il est vu comme une loi donnée, comme un instrument pour donner à l'homme, comme un instrument pour exercer sa libre volonté, pour éprouver sa libre volonté. Saint Grégoire le théologien dit dans un de ses discours, c'est le 38e discours, mais ça c'est selon le classement de la tradition des manuscrits. Cette loi lui prescrivait quel fruit on pouvait manger et celui auquel on ne devait pas toucher. Donc là, dans cette loi qui est donnée, à cette loi qui est donnée, s'attache une épreuve pour la volonté libre de l'homme. Il a le choix de respecter le commandement de Dieu ou de le transgresser. Bon, on retrouvera, par exemple, dans le Deutéronome, un énoncé qui renvoie à cela, c'est-à-dire « J'ai placé devant toi les deux voies, la voie de la vie et la voie de la mort. » Bon, voilà. Et l'homme choisit. Alors, de tout arbre L'homme peut manger, sauf de celui-là. C'est intéressant de considérer qu'il s'agit là d'un acte de menducation pour la vie. Et cette menducation, les fruits de tous les arbres du paradis, sauf un, cette menducation est un acte qui exprime la communion avec Dieu. C'est une idée très importante, là, de le lien entre la menducation et la communion avec Dieu. Après le péché, la menducation, le fait de se nourrir pour l'homme, qui est quelque chose de vital, n'a plus du tout la signification d'une communion avec Dieu. Parce que l'homme, à ce moment-là, devient un prédateur. Et on retrouve la restauration de ce lien entre la menducation pour la vie et la communion avec Dieu dans ce que fait le Seigneur avec ses disciples à la scène du Jeudi Saint, justement. L'Eucharistie est un acte de menducation qui nous rétablit dans la communion avec Dieu. Alors, de cette idée de manger de tout arbre, donc de manger pour la vie, acte qui exprime la communion avec Dieu, le Damasène donne l'interprétation suivante. Alors, est-ce que je retrouve mon texte ? Oui, le voilà. Lorsque Dieu dit « De tout arbre qui est dans le paradis, tu mangeras pour ta nourriture », c'est comme s'il disait « Par toute la création, monte vers moi, ton Créateur, et sur eux tous, cueille un seul fruit, moi, la vie, et la communion avec moi, et que cette communion avec moi soit la base de ton existence, car c'est de cette manière que tu seras immortel. » Toujours dans la deuxième ligne de la foi orthodoxe. Donc, cette liberté de choix qui est octroyée à Adam par Dieu, comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est aussi une manière de l'éprouver. Parce que l'épreuve, elle permet de grandir spirituellement. C'était valable pour Adam dans l'Éden, et c'est valable pour tous ceux et celles qui s'attachent au Christ. On reçoit des épreuves pour grandir dans le Christ. Et le commandement évoqué ici, saint Irénée nous le dit dans la démonstration de la prédication évangélique, ce commandement a une vertu pédagogique. Si Dieu a donné ce commandement à Adam dans le paradis, c'était pour l'instruire, lui montrer qu'il devait se soumettre, mais se soumettre volontairement, librement à la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi la transgression, elle produit l'effet inverse. La transgression, elle entraîne la mort. Et le malheur veut que par son péché, le péché personnel qu'il a commis, Adam s'est coupé de la source de vie et a entraîné toute la création dans la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, comme dit saint Paul. Et cette mort n'est pas simplement le fait de l'homme, mais elle entraîne toute la création dans la mort. Et de ce fait, nous héritons de notre premier père une nature corrompue, mortelle, déchue. Et c'est le lot de toutes les générations humaines, sans exception. Parce que la transgression, elle a comme propriété remarquable d'avoir interrompu la croissance spirituelle d'Adam vers Dieu, sa montée vers Dieu, et donc elle l'a fait tomber, elle l'a fait chuter. Alors, je pose la question suivante. Ne faut-il pas voir, comme le dit Saint Jean Chrysostome, s'agissant de cette première loi donnée au paradis, ne faut-il pas voir en elle comme la matrice de tous les autres commandements de Dieu? Je pense qu'avec lui, on peut légitimement se poser la question. En fait, dit-il, si Adam et Ève avaient aimé leur Seigneur et Dieu, ils n'auraient transgressé aucun commandement. Ils n'auraient pas fait confiance aux paroles du serpent et ne se seraient pas tués eux-mêmes aussitôt après, perdant l'immortalité pour avoir transgressé le commandement. Ils n'auraient pas commis, c'est toujours le Chrysostome qui parle, ils n'auraient pas commis un larcin en goûtant secrètement du fruit de l'arbre et en essayant de se cacher de la face de Dieu, comme il est dit dans le troisième chapitre. On va y revenir. Ils ne seraient pas devenus les collaborateurs du menteur. Le menteur, c'est le diable, qui est le menteur dès l'origine, nous dit la première épître de Saint Jean, en se laissant persuader qu'ils deviendraient comme des dieux, comme des dieux. Enfin, s'ils n'avaient pas convoité le bien d'autrui, ils n'auraient pas goûté aux fruits défendus. C'est donc ainsi que dans cette loi générale et primitive de Dieu sont inclus tous les commandements postérieurs de la loi qui ont été promulgués en leur temps. C'est vraiment très, très intéressant et très profond ces paroles de Saint Jean Chrysostome. Très éclairantes ces paroles. Donc par là, nous voyons bien les conséquences catastrophiques du choix d'Adam. Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, possédant la connaissance du bien et du mal. » Là encore, comme des dieux, hein, c'est en 3, chapitre 3, versets 4 et 5. Alors le serpent, de par sa capacité à prendre toutes les formes possibles, est instrumentalisé par Satan. Satan qui est l'auteur du péché, qui est le séducteur. Et il apparaît donc dans ce troisième chapitre. Au premier chapitre, c'était la personne même du Seigneur Dieu qui était... dont on parlait dans ce chapitre, son œuvre de création. Au deuxième chapitre, il y a l'homme, et ici, il y a ce troisième personnage qui est Satan, c'est-à-dire le diable, le diviseur, le diabalos, le diviseur. Et d'ailleurs, tous ces noms qui s'attachent au diviseur, on les retrouve en plusieurs lieux de l'Écriture, et par exemple dans la vision de la femme et du dragon que l'on trouve en Apocalypse 12, verset 9, il est dit, on le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Et saint Paul, lui, nous dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, il nous parle de l'assujettissement de la création par le Satan, l'antique serpent. Qui est-il ce Satan, ce diabalos, ce diviseur? Le prophète Isaïe nous en parle en ces termes. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant? Fils de l'aurore, comment as-tu été précipité à terre, toi qui séduisais les nations, toi qui disais, Je monterai dans les cieux, je hausserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée divine à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je serai comme le Très-Haut. Mais tu as dû descendre dans le séjour des morts, au plus profond de la fosse. Vous trouvez ça en Isaïe 14, les versets 12 à 16. Ézéchiel fait écho également en disant « Toi, le chérubin étincelant, le protecteur, je t'avais établi. » C'est Dieu qui parle. « Tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu allais et venais au milieu des charbons ardents. Ta conduite fut parfaite depuis le jour de ta création, jusqu'à ce qu'on découvre en toi la perversité. Par l'ampleur de ton commerce, tu t'es rempli de violence et tu as péché. » Donc c'est un archange déchu. Et Satan, après sa révolte contre Dieu, n'a qu'un objectif, ô combien ténébreux, perdre toute âme humaine, la détourner de Dieu et la réduire en esclavage. Et c'est pourquoi il est l'origine du péché. L'origine du péché, c'est lui, c'est l'inventeur du péché, c'est lui. Il est le meurtrier dès l'origine, comme nous dit saint Jean, et il se fait séducteur pour entraîner l'homme à sa perte. Et il agit en nous, très concrètement, dans nos vies, par les passions qui nous détournent de Dieu, et il agit aussi, il est à l'œuvre aussi, dans toute l'histoire humaine, par les exactions des différents empires qui se sont succédés dans l'histoire, par les idéologies qui sont grandes pourvoyeuses de cadavres, et ce, du commencement du monde jusqu'à aujourd'hui. Il est, nous dit l'Écriture, menteur, meurtrier, séducteur. Il est séducteur en cela parce qu'il ne se présente jamais avec son visage ténébreux. Il se revêt de beaux atours pour séduire les hommes, parce que s'il apparaissait tel qu'il est, évidemment, il n'y aurait pas grand monde qui le suivrait. Du moins, on peut le subodorer. Mais pour autant, Adam et Ève ont été séduits, mais pour autant, Adam n'a pas d'excuse. Pourquoi il n'a pas d'excuse? Parce qu'il avait été averti du danger, en Genèse 2,17, hein, que j'ai cité déjà. Ce danger énoncé et le commandement qui s'y rattache. Signifiait-il que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était mauvais? Alors, on peut, quand on lit la littérature qui se rapporte à cet épisode de la Genèse, on peut se poser la question. Toujours dans la lettre à Autolycos, saint Théophile, que j'ai cité un peu plus tout à l'heure, quoi, nous dit à ce propos-là, hein, « L'arbre de la connaissance était beau et son fruit était bon, car ce n'est pas lui qui portait la mort, comme certains le pensent, c'était la transgression du commandement. » Voilà, c'est une distinction très importante. On évite des confusions si on se pénètre de ce que dit Théophile à Autolycos. Et saint Jean Chrysostome, à nouveau, vous savez que saint Jean Chrysostome a écrit de nombreuses homélies sur la Genèse, affirme que l'Écriture sainte a appelé cet arbre « arbre de la connaissance du bien et du mal ». Je cite « Non qu'il communiquât une telle connaissance, mais bien parce que c'était par lui qu'il fallait accomplir soit la transgression, soit la soumission au commandement de Dieu. » Je continue la citation, qui est assez longue. Le Seigneur ami de l'homme, désirant l'assagir dès le commencement et lui faire prendre conscience qu'il a son propre Créateur, par bienveillance lui montra sa puissance par ce petit commandement. Donc l'interdit de manger le fruit de cet arbre. Le Seigneur confia à l'homme tout le monde visible Il lui permit de vivre au paradis et de profiter de tout ce qui s'y trouvait. Et c'est pour que l'homme ne s'enivra point petit à petit d'une pensée de suffisance du monde visible, nous dit Chrysostome, et ne fut trop imbu de sa propre dignité, que Dieu lui prescrivit de ne s'abstenir que d'un seul arbre. Il fixa une lourde sanction pour la transgression de ce commandement, afin qu'il sût qu'il se trouvait soumis à Dieu, il s'agit de l'homme là, et qu'il ne pouvait user de tous les autres que par la bonté du Seigneur. Mais lorsqu'Adam, Chrysostome poursuit, mais lorsqu'Adam, par une extrême négligence, eut transgressé avec Ève le commandement donné par Dieu, et qu'il eut mangé de l'arbre, cet arbre fut appelé arbre de la connaissance du bien et du mal. Ceci ne signifie point que jusque-là l'homme eût ignoré ce que sont le bien et le mal. Il le savait, puisque la femme, parlant au serpent, lui avait dit « Dieu a dit, vous ne mangerez pas de lui pour ne pas mourir. » Ce qui signifie bien qu'elle savait que la mort serait son châtiment si elle transgressait le commandement. Si la Sainte Écriture l'a appelé « arbre de la connaissance du bien et du mal », c'est parce que, après avoir mangé de cet arbre, ils ont été privés de la gloire suprême et qu'ils ont su qu'ils étaient nus. C'est sur lui qu'ont été vérifiés, pour ainsi dire, l'obéissance ou la désobéissance. Mais en réalité, la mort et les autres malheurs qui y ont survenu ne venaient pas de l'arbre, mais de la transgression du commandement, de la désobéissance. Fin de citation. Autrement dit, et pour me répéter, au paradis, dans l'Éden, l'arbre de la connaissance servait d'épreuve, d'expérimentation de l'obéissance et ou de la désobéissance. C'est très exactement ce que nous dit Saint Grégoire le théologien dans son discours 45 et dans le 38e également. Je cite « Au paradis, Dieu a donné la loi à l'homme pour exercer sa liberté. » La loi dont il s'agit, c'est la première loi qui est la matrice de toutes les lois ultérieures, comme le disait Chrysostome tout à l'heure. Donner la loi à l'homme pour exercer sa liberté. La loi était le commandement des fruits dont on ne pouvait user et de celui dont on ne devait pas toucher. La loi était le commandement des fruits dont on pouvait user et de celui dont on ne devait pas toucher. Il lui était prescrit de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui avait été planté qui avait été planté sans mauvaise intention et qui n'était pas interdit par jalousie. Au contraire, il était bon pour ceux qui en useraient en temps opportun, dit Saint Grégoire le théologien. En temps opportun, car cet arbre, à mon avis, ajoute-t-il, était la contemplation à laquelle ne peuvent accéder sans danger que ceux qui sont accomplis dans la pratique, mais qui ne serait pas bonne pour les simples et pour ceux dont les désirs sont excessifs. Voilà des paroles vraiment très, très fortes. Alors, de quelle manière Adam et Ève tombèrent ? Il faut d'abord se rappeler ce qui a été dit tout à l'heure, que Satan est jaloux de l'homme, qu'il ne supporte pas de voir la communion entre Dieu et l'homme, et à ce titre, il va user de stratagèmes pour essayer de faire tomber l'homme. De quelle manière il procède ? D'abord, si vous suivez le texte attentivement, vous verrez qu'il sème le doute. Il sème le doute sur la parole de Dieu, il sème le doute sur le commandement de ne pas manger le fruit de l'arbre défendu, il affirme très directement « vous ne mourrez pas », en fait il accuse Dieu d'être un menteur, hein. C'est ça que ça veut dire. Il sème le doute sur la parole de Dieu. Ça, vous voyez, c'est l'une des tactiques favorites du prince de ce monde. Le doute, évidemment, à partir du moment où on entre dans le doute entraîne la perte de confiance. Si on était en confiance avec quelqu'un et que monte en nous un doute, la confiance avec ce quelqu'un n'est pas forcément totalement supprimée, mais elle est pour le moins mise en cause, et peut-être qu'elle va déboucher sur le fait qu'on ne fasse plus du tout confiance à cette personne. Donc le doute... Premier stratagème, chercher à entraîner la perte de confiance en Dieu et en sa parole. Satan également cherche à éveiller l'orgueil en l'homme. Pourquoi ? Parce que l'orgueil, il est le prince de l'orgueil. Lui, il a refusé de servir. Il est, lui, le prince de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est le pivot de tous les péchés. Or, Satan est l'inventeur du péché. Il cherche à éveiller l'orgueil, pivot de tous les péchés, et avec lui, la convoitise et l'appropriation indue. Vous serez comme des dieux. Vos yeux s'ouvriront. Vous connaîtrez. Bref, ça veut dire quoi ? Ça veut dire vous ferez ce que vous voudrez, vous n'aurez plus d'autre maître que vous-même. Et quand l'homme rejette Dieu, quand il ne le reconnaît plus pour maître, au motif qu'il ne veut pas avoir d'autre maître que lui-même, eh bien... qu'il en soit conscient ou pas, il entre dans les fers d'un autre maître, de celui qui est le séducteur, de celui qui ne se montre jamais sous son vrai jour. Et saint Luc nous dit au verset 13, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Donc, vous voyez, là, il n'y a pas de demi-mesure. Ou on appartient à Dieu, ou on appartient au séducteur. Donc, en faisant cela, en accréditant les suggestions sataniques, en se laissant prendre au filet du plan ténébreux de Satan, eh bien, Adam va se couper de la source de vie. Il va renoncer à avoir Dieu comme maître. Et de ce fait, il s'en choisit à nouveau, comme je viens de le dire. Et il devient esclave du péché. Alors, vous voyez... la relation de l'homme avec Dieu, c'est une relation fondée sur la liberté. La relation de l'homme avec Satan, c'est une relation fondée sur l'esclavage. Satan détruit la liberté de l'homme et réduit toujours l'homme en esclavage. Il en va pour les personnes, comme pour des nations, comme pour des civilisations. C'est la même chose. Et donc, en écoutant le séducteur, par orgueil, il refuse d'obéir. Il fait l'expérience de la transgression. et il cesse d'être un serviteur de Dieu. Il cesse d'être un serviteur de Dieu. Il y a une citation du bienheureux Augustin là qui tombe vraiment à propos dans son œuvre qui est immense. Hein. Il y a un traité sur le psaume 70 qui dit ceci. C'est vraiment une très belle parole et très profonde. L'arbre de la connaissance est bon. Mais, alors bon, il dit la même chose hein, que Chrysostome et Grégoire le théologien, Grégoire de Nice... Athanase d'Alexandrie, là-dessus, ils sont tous d'accord. L'arbre de la connaissance est bon, mais il ne fallait pas y toucher. Pourquoi ? Demande le bienheureux Augustin. Réponse : parce que je suis le Seigneur et toi le serviteur. Il parle de Dieu, bien sûr. C'est toute la raison. Si tu trouves que la raison est faible, c'est que tu désires ne pas être serviteur. Tu désires être dans la transgression, dans la désobéissance, et tu ne désires pas être mon serviteur, dit Dieu. Donc par cette chute qui introduit à la mort de l'homme, à la mort dans toute la création, cette chute également, elle met entre les différents règnes du vivant l'hostilité. Ça, c'est une idée qu'on trouve de manière prégnante chez les pères syriaques. Et le drame, c'est que, ce faisant, l'homme ouvre les portes au mal sans pouvoir s'en défaire par ses propres forces. Il est prisonnier, il est esclave. Et seul celui qui est sans péché peut l'en délivrer. C'est tout le sens, disons, de... Nous verrons la prochaine fois, c'est tout le sens de... En suivant, donc, les autres parties du chapitre 3, c'est tout le sens de l'idée que Dieu n'a pas abandonné à son sort l'homme, parce que s'il l'avait abandonné à son sort, eh bien, l'homme serait toujours... indéfiniment, éternellement esclave de la mort et du péché et du mal. Mais dans sa miséricorde, eh bien, malgré la transgression, Dieu va, dans son dessein, en faveur de l'homme, va l'amener au salut. Alors, sur le fait qu'on est prisonnier, à cause de cette transgression, et qu'on ne peut pas s'en défaire par ses propres forces, saint Paul a des paroles très fortes lui aussi, en Romains 7, les versets 18 à 19. Je cite, « Car je sais que nul bien n'habite en moi. Je veux dire dans ma chair, en effet, vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. » Puisque je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas. Voilà, ça résume très bien la position de l'homme prisonnier des forces du mal, enchaîné par les forces du mal. Alors le texte nous dit qu'après la transgression du commandement, leurs yeux s'ouvrirent à Adam et Ève, et tous deux, ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Or ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu, au milieu des arbres du jardin. C'est en 3, versets 7 et 8. Hein. Donc là, la nudité, elle n'est plus du tout le témoignage de l'innocence du cœur, comme à la fin du deuxième chapitre. Mais au contraire, elle est signe de transgression, de culpabilité, de dissimulation. Il y a là, à partir de là, un changement complet d'attitude vis-à-vis de Dieu suite à la chute, suite à la transgression. Changement complet parce que ayant écouté la suggestion du serpent, ils ont transgressé le commandement, et donc ils ont rompu la communion avec Dieu. Donc le fait qu'ils savent qu'ils sont nus, eh bien, ça montre leur culpabilité devant Dieu. Ils savent qu'ils sont coupables devant Dieu. Ils savent qu'ils ont transgressé. Et dans cette perspective, le fait de se fabriquer des pagnes pour cacher leur nudité, eh bien, c'est le signe de la dissimulation de la faute. D'ailleurs, ils se cachent. Et on peut dire même plus généralement d'ailleurs que, à travers ce récit ô combien significatif de la Genèse, que l'homme sans Dieu, il est nu. Il est nu, l'homme sans Dieu, parce que il a rompu le lien avec la source de vie, et il est nu, il est entré dans une forme de négation de tout, finalement, il est intérieurement complètement nu. Troisièmement, Adam et Ève ont peur. Ça rejoint donc la perte de confiance en Dieu. Ils ont peur, le Seigneur les appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur car j'étais nu et je me suis caché. » J'ai pris peur, j'ai dissimulé ma transgression et je me suis caché pour que tu ne me vois pas. Quatrièmement, et là c'est quelque chose qui est évidemment très connu de nous tous, Adam cherche des excuses. Il veut faire retomber la faute sur Ève, bien sûr, c'est plus commode. « Qui t'a révélé, dit-il, il s'agit de Dieu, que tu étais nu. » Bien sûr, il le sait, mais il veut entendre la parole d'Adam. « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Et le même interrogatoire est fait auprès d'Ève, qui elle aussi cherche des excuses. Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Donc là, on voit bien que par le péché, Adam et Ève pratiquent quelque chose qui est malheureusement une constante dans toute l'histoire humaine, c'est la culture de l'excuse, de l'auto-justification. Ben oui, j'ai fait ça, c'est de la faute à un tel. Ben oui, j'ai fait ça, j'ai écouté un tel. Et chercher des excuses, c'est s'auto-justifier et c'est amoindrir à ses yeux la portée de la faute. Voyez ? Donc, voilà, nous allons en rester là pour aujourd'hui. Nous allons continuer. Nous allons rester encore dans ce chapitre 3 la prochaine fois. Et nous verrons que, bien que Adam ait été entraîné par la suggestion de Satan, ait été entraîné à la transgression, Satan qui est la source du péché, qui est l'inventeur du péché, eh bien, malgré cette chute, Dieu n'abandonne pas l'homme dans l'empire de la corruption et de la mort. Voilà, j'en ai terminé. Nous continuerons donc les autres parties du chapitre 3 la prochaine fois.